Le 24 septembre 1853, la France prenait possession de la Nouvelle-Calédonie, une date souvenir sur laquelle nous revenons dans un instant. Une journée qui se déroule dans le calme, marquée également par la déclaration unitaire du nouveau FLNKS, du MNIS, de l'EPKNC et du Sénat coutumier. Ils réaffirment leur volonté de voir accéder le pays à la pleine souveraineté dans le cadre des discussions et négociations avec la France. Le SMTU ajuste son service de transport en commun à partir du 1er octobre. Nous en parlerons avec son nouveau directeur, Yannick Fèvre, qui est l'invité de ce journal. En métropole, les chefs d'entreprise inquiets et en colère, ils pourraient se mobiliser dans les jours à venir. Ce n'est pas seulement symbolique, mais un acte de paix. Emmanuel Macron essaie de convaincre après la reconnaissance très controversée de l'État palestinien par la France. Et puis dans la page sport, nous ferons le point sur le championnat de France de football de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, après 7 journées, Saint-Étienne est toujours invaincu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes donc le 24 septembre, jour férié en Nouvelle-Calédonie pour la fête de la citoyenneté. Cette date a été l'occasion de festivités par le passé, mais elle a suscité aussi des tensions ces dernières années, Nicolas Legrand.
Oui, une date devenue très politique pour les indépendantistes, la fête de la citoyenneté qui commémore en effet le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Le 24 septembre 1853, retour 172 ans en arrière avec l'historien Luc Steinmetz.
Le contre-amiral Février des Pointes a pris possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de l'empereur Napoléon III qui était à l'époque à la tête d'un régime politique qui s'appelait le Second Empire. Ça veut dire que ce jour-là, la Nouvelle-Calédonie est devenue française. C'est important de dire que quelques jours après, à l'île des Pins, ce même amiral Février des Pointes a signé également un acte de prise de possession et de reconnaissance de souveraineté avec la chefferie Vendégoût de Cougné, de l'île des Pins. Et progressivement, après, dans les semaines ou les mois qui ont suivi, des actes de prise de possession et de reconnaissance de souveraineté française ont été également signés avec d'autres chefs sur la Grande Terre, que ce soit sur la côte Est ou même sur la côte Ouest, dans la région de Nouméa, etc. On a tendance à occulter un petit peu les autres petites déclarations de souveraineté qui ont été également signées.
Le 24 septembre sera ensuite commémoré une première fois en 1903 pour le cinquantenaire et en 1953, 7 ans après la fin du régime de l'indigénat, le centenaire sera une fête communielle lors de laquelle le député Union Calédonienne Maurice Lenormand affirmera que le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France est indéfectible. Une affirmation qui sera confirmée 5 ans plus tard lors du référendum de 1958. Le général de Gaulle soumet alors au vote du peuple l'approbation de la Constitution de la 5e République et pour l'ensemble des Outre-mer, ce vote a une double portée, la validation de la Constitution d'un côté et de l'autre l'attachement à la France. Si le territoire avait voté non, alors il serait immédiatement devenu indépendant et ce ne fut pas le cas, bien au contraire, rappelle l'historien Luc Steinmetz.
Ça veut dire que les Calédoniens, et je signale qu'à ce moment-là, tous les Kanaks votent et les Mélanésiens à cette époque constituent 53% du corps électoral, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi répondu dans les mêmes proportions, 98% de oui au maintien de la Calédonie dans la France. Pourquoi c'est important? Parce que voyez-vous, en 1853, le 24 septembre, c'est vrai que ça a été un acte unilatéral. La France a pris possession dans le droit international de l'époque. Tandis qu'en 1958, ça donne à l'acte de prise de possession de 1853 un caractère bilatéral. Ça veut dire que cette fois-ci, ce sont les Calédoniens ou les Kanaks sont majoritaires qui veulent rester français. Ça veut dire que ça efface en quelque sorte l'acte unilatéral qui avait été posé par Février des Pointes en 1853.
Et depuis, le 24 septembre a pris au fil des ans une connotation différente, notamment depuis la revendication d'indépendance qui en a fait pour une partie de la population un jour de deuil. C'est pourquoi la fête de la citoyenneté a été créée pour dépasser les clivages.
On a vu ce jour de fait, devenir pour certains un jour de deuil. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme il n'était plus vraiment fêté dans la joie et dans la communion, qu'en 2004, à l'initiative de Dewey Gorote, qui était alors membre du gouvernement, eh bien, le 24 septembre est devenu la fête de la citoyenneté, censée devenir la fête de toutes les communautés unies dans un destin commun, tel qu'il avait été envisagé par l'accord de Nouméa avec la création de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Bon, avec ce qui s'est passé évidemment l'année dernière, on sent qu'on n'est plus du tout sur cette longueur d'onde de la fête des communautés dans la joie, c'est regrettable, mais ça sera à l'accord de Bougival, s'il n'est pas compromis, finalement peut-être poser les jalons d'une nouvelle organisation de commémoration de ce 24 septembre pour les temps futurs.
Et cette année, le gouvernement n'a pas organisé d'événement pour cette fête de la citoyenneté.
À l'occasion de ce 24 septembre toutefois, le comité 150 ans après organise lui un rassemblement à Nouméa sur la place du Moïcab et de la Moselle. Près de 300 personnes ont fait le déplacement ce matin pour assister aux coutumes et aux premières prises de parole malgré les caprices de la météo. Sylvestre Néouédou est le président du comité 150 ans après.
Simplement pour dire que la commémoration, donc, tous les ans on l'a fait. Mon an, mal an, mais donc, peu importe le temps, on fait toujours simplement vous rappeler l'histoire. Hein, donc c'est l'histoire, donc peu importe l'appartenance ethnique, mais on est tous dans le même sac. Le fait colonial a fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc il faut faire avec. Hein, donc il faut se créer les conditions pour les vivre ensemble. Quoi. Donc ben, voilà, c'est tout ça. Donc il n'y a pas de solution toute faite. Hein. C'est dans ce sens-là qu'on essaie de vivre. Même si, dans le dernier temps, il y a des bouleversements politiques concernant les différents accords qu'on essaie de mettre en place. Puis je crois que ça a créé une division. Donc là, on dit qu'il faut revenir donc, ensemble pour essayer de repartir. Puis, recréer cette unité.
Et ce rassemblement organisé par le comité 150 ans après est prévu pour durer jusqu'à 18h, un 24 septembre, avec aussi une déclaration unitaire du nouveau FLNKS, du MNIS, de l'EPKNC et du Sénat coutumier. Ils ont voulu marquer cette date de commémoration de façon symbolique, Elisabeth Noir.
Le symbole est une déclaration de principe à défaut d'autre chose. À l'origine, cette déclaration devait être faite place du Moïcab, mais le Haut Commissariat a fait valoir que l'autorisation accordée au comité 150 ans après était pour une manifestation culturelle, mais en aucun cas politique. C'est donc au siège de l'UCE que se sont retrouvés les participants, en l'occurrence les représentants du nouveau FLNKS, le MNIS, le PKNC et l'instance autochtone de discussion qui réunit le Sénat coutumier et les conseils coutumiers. Ils ont donc souhaité rendre publique cette déclaration unitaire de 4 pages qui n'apporte aucun élément nouveau et qui a été lue par Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UCE. Elle commence par un rappel historique avant de réaffirmer les positions que chacun connaît au travers de divers considérants. Les auteurs de cette déclaration indiquent ensuite qu'ils exigent le respect du processus irréversible de décolonisation prévu par l'accord de Nouméa pour arriver à la pleine souveraineté. Ils prient la puissance administrante d'engager une discussion sincère sur la réparation des préjudices historiques subis par le peuple kanak. Et enfin, ils déclarent un certain nombre d'exigences.
Déclare leur engagement à faire aboutir l'accession du pays à la pleine souveraineté dans le cadre des discussions et négociations avec la puissance administrante. La nécessité de maintenir les élections provinciales en novembre 2025 au plus tard, afin de redonner une légitimité aux représentants de la population au sein des institutions. Leur engagement à créer les conditions pour élaborer un projet de société inclusif, solidaire et durable, avec la prise en compte de la légitimité coutumière et la souveraineté des chefs-lieux avec l'ensemble de la société civile, les autorités religieuses et les autorités coutumières. Leur engagement à poser le fondement d'une unité nationale pour contribuer à une prospérité du développement du pays et à une stabilité durable en matière d'ancrage dans la région pacifique. Que l'indépendance sera proclamée dès que les conditions seront réunies au plus tard avant les élections présidentielles de 2027. Leur engagement à continuer d'œuvrer avec les signataires de cette déclaration, les organisations qui partagent l'orientation de cette déclaration.
Une déclaration de principe qui sera transmise aux élus calédoniens, aux représentants de l'État, aux groupes parlementaires ou encore aux pays de la région et au comité des 24 de l'ONU. Reste que ce 24 septembre 2025 avait été présenté à plusieurs reprises comme la date d'une proclamation unilatérale d'indépendance. Ce n'est pas le cas, reconnaît Dominique Fauchy.
C'est le calendrier qu'on s'était fixé au côté du FLNKS. Maintenant, on n'a plus d'interlocuteur au niveau de l'État. Donc, par voie de conséquence, on constate tout simplement qu'on ne pouvait pas y aller jusqu'au bout. Tenir le calendrier qui a été fixé. Apparemment, ils sont plus en train de traiter la mise en place du gouvernement. Hein. Donc, on ne sait pas qui c'est l'interlocuteur, si c'est le Premier ministre qui va reprendre le dossier calédonien, le MOM. On est un peu dans l'expectative.
Voilà, il reste dans l'expectative. On retient une déclaration unitaire pour réaffirmer la volonté de voir accéder à la Calédonie à la pleine souveraineté dans le cadre de discussions et négociations avec la France, la volonté que les élections provinciales soient maintenues en novembre 2025 et que l'indépendance soit proclamée au plus tard avant la présidentielle de 2027. Il paraît que le PALIKA et l'UPM ont été consultés pour s'associer à cette démarche unitaire, mais qu'ils n'ont pas donné suite.
Et rappelons qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place pour ce 24 septembre. Aucun incident significatif n'a été signalé à cette heure. Dans un communiqué, le Haut Commissariat indiquait ce matin que 17 faits de violence urbaine ont été constatés, essentiellement des feux de végétaux, de poubelles ou de pneus qui ont eu lieu dans la nuit. Le reste de l'actualité en Calédonie, le SMTU annonce des changements sur le réseau de transport en commun à partir du 1er octobre, c'est-à-dire mardi prochain. Nous allons en parler avec le nouveau directeur du SMTU, Yannick Fèvre, qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, parce que ce sont des changements qui permettent d'affiner les choses. On sait que le réseau a repris après les émeutes, mais il y a eu un long temps pendant lequel il n'a pas pu reprendre, qu'il a pris en mode dégradé. Vous avez scruté en fait le fonctionnement du réseau depuis les 6 derniers mois, et c'est à partir de ça que vous avez décidé de faire des ajustements ?
Oui, alors la première mise en place était vraiment de remettre un service de transport en commun. On savait que c'était pas idéal, mais on l'a fait avec les moyens et le contexte économique du moment. On a choisi de desservir les heures de pointe pour pouvoir permettre aux travailleurs d'aller travailler. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, et c'est ce qui est ressorti de l'analyse, c'est que là, on va vers quelque chose de plus normal, on va proposer un service continu sur toute la journée.
Alors justement, on va y revenir, parce qu'il n'y a pas un accroissement du nombre de lignes, on reste sur 8 lignes, mais l'idée, c'est de les exploiter un peu plus à fond ?
C'est ça, on reste sur 8 lignes structurantes, on a rajouté 2 lignes, mais qui sont des lignes d'heure de pointe, donc on ne les compte pas vraiment structurantes pour l'instant, qui permettront de mieux desservir les quartiers, mais c'est 8 lignes structurantes, on a renforcé les horaires, on a des horaires aujourd'hui qui seront continus sur toute la journée, de 5h du matin à 18h30 le soir.
Alors qu'aujourd'hui, la plupart des bus ne circulaient que le matin, le midi et le soir aux heures de pointe.
Le matin, le soir et le midi pour le mercredi. Mmh.
Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quand même, même si on reste sur 8 lignes, quelques lignes qui vont connaître des extensions ?
Oui, alors on a par exemple la ligne de Dumbéa, la D4, qui va desservir des nouveaux quartiers comme Koutio et Yaoué, ce qui n'était plus le cas. Donc ça, c'est un vrai plus pour les usagers. Ça va leur permettre de justement rejoindre le maillage de Taneo et d'aller où ils veulent sur le Grand Nouméa.
Alors est-ce que dans ces ajustements, il y a aussi une volonté, parce que quand le réseau a été remis en route, il y avait une attention particulière évidemment pour les établissements scolaires, pour que les personnes puissent se rendre sur leur lieu de travail. Est-ce que dans les fréquentations que vous avez constatées, ça a nécessité des ajustements, et notamment pour l'accès aux établissements scolaires? On sait que c'est une préoccupation pour nombreux parents.
Oui, ça avait fait l'objet de pas mal de remarques. Du coup, on a travaillé avec le vice-rectorat pour bien récupérer les horaires de sortie d'entrée dans les collèges et lycées, et on a adapté nos plages horaires pour pouvoir être justement dans les temps pour les collégiens et les lycéens qui veulent utiliser le réseau Taneo.
Mmh. Alors ça, c'est à partir du 1er octobre. On signale aussi que l'agence Moselle va être ouverte plus longtemps.
Oui, elle sera ouverte en continu, comme les horaires classiques qu'on avait un peu avant, 6h30, 16h30. Pour pouvoir que les usagers rechargent leur passe.
Mmh. Est-ce que vous êtes déjà sur l'observation d'une évolution future, ou est-ce que vous faites vraiment étape après étape en fonction des moyens que vous avez ?
On sait que c'est une étape, on sait qu'on va encore évoluer. Ce qu'il faut par contre avoir en tête, c'est qu'on repart d'une page blanche, on ne peut pas se servir des données avant 2024, je veux dire, parce qu'elles ne sont plus valides. Donc on regarde au fur et à mesure et on tire les conclusions pour pouvoir améliorer au fur et à mesure. Mais il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte économique contraint, donc on a cette obligation-là. On essaye de s'adapter au mieux du besoin et de couvrir le maximum de quartiers dans l'enveloppe qui nous est attribuée pour faire ce service public.
Alors, on sait que lorsque vous avez présenté ce nouveau service, encore une fois en mode dégradé par rapport à ce qu'on connaissait avant les émeutes de 2024, il y avait eu pas mal de réactions sur les prix, avec un billet à 500 francs qui avait fait réagir. Aujourd'hui, on en est où sur ce sujet ?
Alors, la gamme tarifaire, elle ne bouge pas aujourd'hui, elle reste la même. Mais ce qu'il faut expliquer, le 500 francs, c'est le prix d'appel. C'est-à-dire, si on prend un ticket unique, oui, effectivement. Mais le public ciblé était les usagers fréquents. Et si vous prenez les passes, que ce soit jeunes, seniors, solidaires, par exemple, on a un ticket qui est à 180 francs pour quelqu'un qui prend fréquemment la ligne. Pareil pour un travailleur, celui qui prend le pass Liberté Plus, c'est 12 000 francs le plafond, et donc s'il y va 5 jours par semaine, ça lui fait un ticket à 272 francs.
Donc
on n'est pas sur les 500 francs qu'on entend souvent sur les réseaux qui nous sont reprochés.
Ça vaut le coup de se renseigner sur la multiplicité des offres pour voir celle qui correspond le mieux aux usages qu'on en fait.
On explique bien aux usagers qu'il faut vraiment qu'ils aillent vers ces passes-là, qui sont des passes qui sont avantageux au niveau tarifaire, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas pris encore cette habitude.
Alors quand on regarde le réseau de transport en commun, Yannick Fèvre, on s'aperçoit que la ligne 1 et ce que vous appelez la ligne structurante, la colonne vertébrale en quelque sorte du réseau, c'est cette ligne avec un couloir dédié qui permet aux bus de passer à l'heure et sans embouteillage. C'était le projet initial. Il a fonctionné quelques mois. Est-ce qu'on va le revoir fonctionner normalement à terme ?
Alors aujourd'hui, la ligne 1, elle refonctionne.
Mais pas sur tous les tronçons.
Alors, pas sur tous les tronçons. On a bien notre bus accordéon qu'on appelle Néobus souvent, qui est en place avec des fréquences qui sont celles qu'on a redéfinies dans les nouvelles plages horaires. On a la voie réservée qui est aussi fonctionnelle sur certains tronçons. Par contre, on a des éléments techniques qui restent à lever pour pouvoir remettre en service l'ensemble de la ligne telle qu'elle était avant 2024.
Question de semaine, question de mois ?
je dirais 2 mois. Qu'il y a du travail.
En tout cas, les changements qu'on vient d'évoquer avec vous entreront bien en vigueur le 1er octobre. Ça aurait été plus simple un lundi, non?
Techniquement, non, parce que ça nous permet de mieux réagir s'il y a des ajustements à faire. Un lundi, c'est toujours compliqué parce qu'on travaille avec des prestataires qui sont en métropole. Donc, ça voudrait dire s'il y a un problème, c'est le dimanche, c'est un peu compliqué. Donc, pour nous, c'est plus facile. Et en plus, un mercredi, c'est un jour qui impacte souvent pour pas mal de personnes qu'une demi-journée.
Voilà, donc d'où ce choix du 1er octobre.
Tout à fait. Mais... Et puis, 1er octobre, c'est bien, c'est un début de mois.
C'est facile pour les abonnements
voilà.
En plus.
Voilà.
Yannick Fèvre, un grand merci d'être venu dans ce journal pour nous parler de ces changements donc, sur le réseau de transport en commun qui interviendront le 1er octobre prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci à toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus.
On reste dans le domaine économique avec l'IOM qui publie une note de conjoncture financière. L'Institut a étudié l'évolution bancaire et monétaire pour le deuxième trimestre de l'année. Un an après le début des émeutes, l'économie calédonienne montre quelques signes de stabilisation, Nicolas.
Oui, premier point à signaler, la production de crédit rebondit plus 20% par rapport au deuxième trimestre de 2024. Alors on se souvient que la moitié de cette période avait été marquée par les violences insurrectionnelles. Sur 12 mois glissants, l'encours des crédits baisse de 7,9%, soit 84,4 milliards de moins. L'IOM qui réaffirme son engagement en tant que banque centrale. L'Institut note que dans ce contexte de net apaisement des tensions inflationnistes, il a baissé ses taux directeurs de 200 points de base entre juin 2024 et juin 2025. L'IOM continue par ailleurs d'apporter des ressources au système bancaire dans un contexte de déficit clientèle structurel. L'encours de refinancement de l'IOM pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les lignes de refinancement et de réescompte, s'établit ainsi à 126 milliards de francs en juin 2025.
Dans la région, le Vanuatu et la Chine renforcent leur coopération sécuritaire. En fait, dans le nouvel accord signé entre les deux pays, la Chine continue d'équiper le Vanuatu comme elle le fait depuis de nombreuses années déjà. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ce pas supplémentaire dans la coopération dite sécuritaire a été franchi en fin de semaine dernière lorsque le ministre né Vanuatu de l'Intérieur, Andrew Napwat, a été reçu à Pékin par son homologue chinois Wang Chaoyang. Suite à ces entretiens, la Chine a notamment décidé de fournir à Port Vila 20 motos de police supplémentaires, de même que 20 drones et des systèmes de télécommunication de type Interpol. Le montant de ce don a été estimé à près de 46 millions de nos francs. Et il vient donc s'ajouter aux offres similaires que Pékin a déjà faites dans le passé au Vanuatu. Dans un communiqué conjoint, les deux ministres ont également convenu, je cite, « de renforcer nos échanges à tous les niveaux et de collaborer pour améliorer nos capacités communes de maintien de l'ordre ». Il s'agit surtout de faire progresser le partenariat stratégique qui unit nos deux pays, a déclaré Andrew Napwat. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 12h18, la première pause de ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducose, 27 74 20 ou sur Facebook.
Qui a le droit?
Patrick Bruel vous donne rendez-vous à l'Arène du Sud le 25 octobre pour son concert époustouflant. Une voix qui réveille les souvenirs, une énergie qui traverse les générations.
C'était les rendez-vous.
Patrick Bruel en concert, un moment rare, vibrant, à vivre absolument le 25 octobre à l'Arène du Sud. Billetterie sur ticketpacific.nc et dans les supermarchés Auchan-Connet, Auteuil et Quai Ferry. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
En métropole, il continue de consulter. Il est à Matignon depuis le 9 septembre maintenant, mais Sébastien Lecornu n'a toujours pas annoncé la composition de son gouvernement. Il essaye avant cela de trouver une alliance qui doit lui permettre d'échapper à la censure. Il doit de nouveau recevoir demain les syndicats et les organisations patronales. Le MEDEF est vent debout contre toute hausse d'impôts, alors qu'une taxe sur les hauts revenus, la fameuse taxe Zucman, est toujours envisagée. Lors de l'événement Big à l'Accor Arena à Paris, des chefs d'entreprise se sont dit déterminés à exprimer leur colère dans les tout prochains jour. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Alors que le thème de cette journée consacrée aux entrepreneurs est la vérité, eh bien, il y en a quelques-unes que les patrons souhaitent rétablir. Patrick Martin, à la tête du MEDEF, qui regroupe plus de 12 millions de salariés, a précisé qu'il ne dansait pas la Zucmania, mais qu'il allait donner de la voix.
Exprimons-nous, exprimez-vous, et sachez-le, nous organiserons, toutes organisations patronales confondues, un énorme meeting dans quelques jours pour dire joyeusement ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être.
Passé également sur la scène de l'Accor Arena, Frédéric Rayard, président de l'agence de publicité Fred et Farid, pour lui, une mobilisation est urgente.
Il faut qu'on réagisse et je constate qu'il y a de plus en plus d'énergie pour réagir. Il y a une vraie volonté de tous les entrepreneurs de prendre plus de le pouvoir en fait, de prendre plus le pouvoir en France parce que notre pays est en train de sombrer tranquillement et si on reste dans notre petite bulle, on est en train de se faire déclasser.
Et puis le président de la CPME, Amir Reza Tofighi, en a profité pour répondre à Sophie Binet, la patronne de la CGT. Nous ne sommes pas des pleurnichards, dit-il. Les artisans, chefs d'entreprise n'ont pas le temps de prendre la parole. Nous, on travaille tous les jours et on fait avancer ce pays. Fin de citation. Vous l'avez compris, les patrons ont donc décidé de ne plus se taire face aux critiques.
Emmanuel Macron assure le service après-vente après son intervention à la tribune de l'ONU et la reconnaissance très controversée par la France d'un État palestinien. Dans un entretien télévisé, le chef de l'État explique d'abord qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance symbolique, mais d'une initiative de paix.
Seule cette reconnaissance peut permettre la paix. C'est-à-dire, ce qui stoppera le terrorisme du Hamas qui a déferlé le 7 octobre, c'est qu'il y a un projet politique avec la libération des otages, la démilitarisation et le démantèlement du Hamas, une nouvelle gouvernance qui permette justement de proposer la paix.
Emmanuel Macron parle du conflit israélo-palestinien et de ses répercussions en France. Et face à la montée de l'antisémitisme, il promet protection. Il dénonce un antisémitisme nourri par une partie de l'extrême gauche.
On voit bien des discours à l'extrême gauche qui sont intolérables en termes d'antisémitisme aujourd'hui et qui divisent la République. C'est pour ça que moi j'invite à toutes ces forces, quand elles croient à la République, à être dans l'esprit de responsabilité.
Et avec la France, une dizaine de pays occidentaux ont également reconnu l'État palestinien. Ils font fausse route, a déclaré en substance le président américain Donald Trump lorsqu'il est à son tour intervenu à la tribune de l'ONU.
Maintenant, comme pour encourager la poursuite du conflit, certains membres de cette Assemblée cherchent à reconnaître unilatéralement un État palestinien. Les récompenses seraient trop importantes pour les terroristes du Hamas, pour leurs atrocités. Cela constituerait une récompense pour ces atrocités horribles, y compris celle du 7 octobre, alors même qu'ils refusent de libérer les otages ou d'accepter un cessez-le-feu. Au lieu de céder au Hamas et de tant donner, car ils ont pris tant de choses. Cela aurait pu être résolu il y a longtemps. Mais au lieu de céder aux exigences de rançon du Hamas, ceux qui souhaitent la paix devraient être unis avec un seul message, libérer les otages maintenant.
Et notez que cette reconnaissance de l'État palestinien par la France ne passe pas en Israël, qui pourrait prendre des sanctions contre Paris. On parle de plus en plus, par exemple, de la fermeture du consulat français de Jérusalem, véritable institution.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le ministère de l'Intérieur a eu raison de s'opposer au pavoisement du drapeau palestinien sur les mairies. Ils ne sont que 7% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous jeudi, c'est-à-dire demain après le jour férié, pour une nouvelle question du jour. Retour en France avec des sanctions très sévères prononcées contre les agresseurs du RER en juillet dernier. C'était en gare de Melun dans les Yvelines. Une femme voilée et son compagnon ont été condamnés pour avoir insulté puis frappé une femme dont ils jugeaient la tenue trop courte et son père. Le tribunal de Versailles a prononcé des peines sévères. Alexis Bourdon.
L'homme de 25 ans, déjà connu des services de la justice, a été condamné à 8 ans de prison ferme et sa compagne effectuera une peine de 3 ans ferme. Ils ont été reconnus coupables d'agression sur un père et sa fille roués de coups en juillet dernier. Une agression gratuite qui a duré 11 longues minutes. Maître Docodo, l'avocat des victimes, salue la décision du tribunal.
C'est des peines effectivement qui témoignent la gravité des faits. C'est pas des peines légères, mais c'est des peines lourdes. On se réjouit du fond du cœur et on continue de faire confiance à la justice.
Au total, le procès a duré un peu plus de 4h30. À l'annonce du verdict, la présidente du tribunal a justifié cette décision car, je cite, « les peines sont à la hauteur de la gravité des faits ». Durant l'audience, la défense a tenté de justifier les actes des prévenus, affirmant qu'ils avaient été victimes d'insultes à caractère raciste. Une version qui n'a, semble-t-il, pas convaincu le tribunal.
En bref, déjà englué dans l'affaire Le Grand Cohen, l'audiovisuel public est étrillé, cette fois-ci par la Cour des comptes, qui met même en garde contre le risque d'une dissolution de France Télévisions d'ici 2026. Un salaire mensuel moyen de 6 000 euros, c'est-à-dire plus de 700 000 francs, des frais de taxi astronomiques ou encore 14 millions d'euros, c'est-à-dire 1,5 milliard de francs de crédit public pour les comités sociaux et économiques. La Cour des comptes met le doigt sur une véritable gabegie qui devrait faire réagir. Et puis la disparition d'une diva des écrans, la plus française des actrices italiennes, est décédée à l'âge de 87 ans à Nemours. Tunisienne de naissance, italienne de nationalité, puis naturalisée française, il est impossible de résumer la carrière de Claudia Cardinale, qu'il a vu jouer avec les plus grands acteurs et les plus grands réalisateurs. On retiendra simplement « Il était une fois dans l'Ouest » de Sergio Leone, aux côtés d'Henri Fonda et de Charles Bronson, ou encore « Le guépard » de Luchino Visconti, aux côtés cette fois-ci d'Alain Delon et Burt Lancaster. Il est midi 26, la dernière pause de ce journal avant de voir avec Léo Fichou toute l'actualité sportive.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Société Générale, partenaire majeur du Top 14, est à vos côtés avec passion et engagement sur le terrain comme dans la vie. Particuliers, professionnels, associations, nous vous accompagnons dans tous vos projets. Ensemble, dessinons votre avenir. Société Générale Calédonienne de Banque, 44 rue de l'Alma, BPG2, 98 848, Nouméa Cedex.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Bodin.
On va commencer par le football avec la 7e journée de Ligue 2 et la 6e journée de Liga en Espagne, Léo.
Oui, on commence en métropole. Les 8 rencontres de la 7e journée de Ligue 2 se jouent en simultané. C'était ce matin. On notera notamment la victoire 1-0 du leader Saint-Etienne sur la pelouse d'Amiens. 3, qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Red Star, reprend la 2e place du classement à son adversaire du jour. C'est désormais Pau qui complète le podium après avoir battu Laval 1-0. Et puis en Espagne, le Real Madrid continue son sans-faute. 6e victoire en 6 matchs avec un nouveau doublé pour Kylian Mbappé. Les Madrilènes se sont imposés 4-1 sur la pelouse de Levante et possèdent désormais 5 points d'avance sur l'FC Barcelone. Le Barça qui affrontera Oviedo demain.
Et un mot de tennis pour signaler la défaite cette nuit de Valentin Royer en finale du tournoi de Hangzhou en Chine. Le Français 66e joueur mondial s'est incliné en 2-7, 6-7, 6-7 face à Alexander Bublik, le 16e de l'ATP. C'est le 4e titre de la saison pour le Kazakh. Et puis on termine avec le sport sur le territoire et à l'occasion de la Journée nationale de la marche nordique qui est prévue le 4 octobre prochain. Trakense propose des séances gratuites.
Oui, le rendez-vous est donné tous les mardis de janvier à décembre à 17h sur la promenade Pierre Vernier. En ce mois de septembre, les séances sont gratuites pour essayer. Il en reste donc une seule. La dernière, ce sera mardi prochain, le 30 septembre. Une initiative de la Fédération française d'athlétisme qui est, comme vous l'avez dit, relayée par Trakense sur le territoire. Et c'est Peggy qui anime la séance.
L'objectif, c'est de dire on cherche à marcher naturellement avec des bâtons.
Mais le principe, c'est qu'on se retrouve tous pour une séance de marche nordique pour à peu près une heure et un quart. Donc c'est en mode convivial, personne qui a envie de passer un bon moment, de faire du sport comme le veut la tradition chez Trakense, c'est-à-dire faire du sport sérieusement mais sans se prendre au sérieux.
C'est bon pour vous ? Donc là, ça commence par le pré-réglage. On est assez bien. Et s'il faut, après on change. Faut pas hésiter à dire Peggy, je me sens pas à l'aise.
On va commencer par régler les bâtons, trouver la hauteur qui soit adaptée. Et ensuite, les conseils sont donnés au fur et à mesure de la séance.
On en prend vite ?
Très vite. Il faut être un petit peu persévérant, peut-être au début, pour la question de coordination. Mais vraiment, la technique est très vite apprise. Et après, justement, plus tard, ce sont les perfectionnements.
Entre 10 et 15 personnes participent chaque semaine à ces séances sportives et conviviales.
La marche nordique est un sport complet. L'intérêt de venir avec Trakense, c'est qu'on se retrouve en groupe, donc c'est motivant. Motivant dans le sens où quand on a un peu la flemme, y a toujours le groupe qui motive pour pratiquer l'activité. C'est sympathique, c'est dynamique, et voilà, que du bonheur.
Direction à Morino, poil au dos. Allez, c'est parti.
J'ai eu un petit incident, j'ai eu
une fracture de fatigue sur une vertèbre. Et le toubib, il a dit, c'est natation ou marche. Donc je choisis marche nordique, j'aime pas l'eau. C'est très intéressant, c'est sportif, c'est sympa. Et puis, on prend l'air. Moi, je suis pas très sportif à la base, mais j'avoue que là, on peut avoir un instant de détente, un instant où on fait quelques efforts, mais ça peut être très, très, très intense quand on va au Wentoro. Là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment sportifs. Car c'est un vrai sport, effectivement. C'est un sport pour de bon.
L'ambiance est donc au rendez-vous. Une belle opportunité de découvrir la marche nordique grâce à Track NC. La dernière séance d'essai est prévue mardi prochain à 17h sur la promenade Pierre Vernier.
La séance d'essai, c'est comme en formule, ça va un peu moins vite quand même. Merci Léo, c'est la fin de ce journal. Il est midi et 30 minutes. Dans un instant, vous retrouvez Thierry qui vous emmène jusqu'à 13h pour la fin d'Infomag. Prochain rendez-vous avec l'info sera 13h pour le rappel des titres et puis à 17h cet après-midi. Bel après-midi.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.